Bonjour et bienvenue, 11h TU, 13h ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, la riposte d'Israël aux attaques iraniennes du 1er octobre. L'État hébreu a lancé tôt ce matin une série de raids contre des objectifs militaires en Iran, notamment des sites de fabrication de missiles. Réaction iranienne, nous avons le droit et le devoir de nous défendre. Les États-Unis disent avoir été prévenus sans avoir participé à ces frappes. C'est une journée de vote en Géorgie, République du Caucase. Des législatives présentées comme cruciales et même historiques. Face à face, le parti au pouvoir pro-russe et l'opposition qui réclame l'adhésion à l'Union européenne. Également dans l'actualité, les États-Unis à moins de 10 jours de la présidentielle. Après le Texas hier, Kamala Harris et Donald Trump se rendent aujourd'hui dans le Michigan, l'un des États clés qui devrait faire la décision le 5 novembre. L'armée israélienne a présenté ce matin dans un communiqué le résultat des frappes lancées un peu plus tôt contre l'Iran. L'opération, maintenant terminée, a été déclenchée en riposte aux 200 missiles lancés le 1er octobre par Téhéran sur Israël. Israël dit avoir lancé ce matin des frappes précises et ciblées qui n'ont pas fait de victimes. Les avions militaires ont frappé des sites de fabrication de missiles, des batteries de missiles solaires et d'autres systèmes aériens. Autant de cibles qui avaient été localisées dans les provinces de Téhéran, du Khouzestan dans le sud-ouest et d'Ilam dans l'ouest. Les raids ont maintenant pris fin, permettant au trafic aérien civil de reprendre. Nous retrouvons Siavosh Ghazi en direct de Téhéran. Siavosh, l'Iran déclare avoir le droit et le devoir de se défendre.
Absolument, c'est un communiqué du ministère iranien des Affaires étrangères qui a été publié, donc qui dit que donc l'Iran a le droit et le devoir ou l'obligation de répondre à l'agression israélienne. Est-ce que cela signifie que l'Iran est décidé de répondre donc à l'attaque qui a été menée par Israël dans la nuit? Jusque-là, les médias iraniens et les responsables avaient un ton plutôt de retenue puisqu'on parlait de dégâts mineurs et du fait que le système de défense anti-aérien avait réussi à déjouer et à intercepter les missiles donc qui visaient des sites militaires iraniens. C'est la crainte de la population qu'on entre dans un engrenage donc avec Israël, avec une riposte iranienne et ensuite de nouveau une attaque israélienne. C'est la véritable crainte qu'ont les Iraniens maintenant, alors que ce matin c'était plutôt le soulagement à cause de l'action limité d'Israël contre l'Iran.
Merci Siavosh Ghazi en direct de Téhéran. Ces frappes ont été suivies de condamnations dans les pays de la région et d'appels à la retenue côté occidental. La France appelle à s'abstenir de toute forme d'escalade. Réaction aussi de l'Arabie Saoudite, sans aller jusqu'à se montrer solidaire de l'Iran. Riyad condamne les frappes israéliennes, mettant en garde contre l'extension du conflit dans la région. Côté américain maintenant, la Maison Blanche a qualifié les attaques de manœuvres d'autodéfense de l'État hébreu. Les Américains affirment avoir été informés, mais ne pas avoir participé à ces frappes. Écoutez à ce propos un spécialiste, le politologue Hasni Abidi. Il dirige le Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen.
Je pense que cette fois-ci, et c'est très intéressant d'ailleurs, que les Américains ont pesé lourdement sur la décision israélienne, dans le sens où pour faire une opération à l'extérieur, loin de terrain traditionnel en quelque sorte, pour le Liban ou bien sûr en Syrie ou à Gaza, eh ben, Israël a besoin des États-Unis. Et les États-Unis, à mon avis, ont réussi à convaincre les Israéliens de la non-pertinence d'une frappe importante et surtout qui va cibler les sites pétroliers ou les sites nucléaires. Le deuxième élément, il ne faut pas oublier que les pays du Golfe, qui ont été visités presque tous par le ministre des Affaires étrangères et qui avait dit « attention, nous ne permettons pas l'usage de vos espaces aériens pour l'armée israélienne », ont aussi pesé dans cette décision et c'est pourquoi on l'a vu finalement une décision limitée. Vous avez vu, il y a deux récits, le récit iranien minimise bien sûr pour laisser un petit peu du temps et pour ne pas être pressé de répondre et bien sûr le récit israélien qui parle plutôt d'un succès militaire.
Hasni Abidi, directeur du CERNAM, il répondait à Julien Coquel-Rohem dans la matinale de RFI. Des élections législatives qualifiées de cruciales et même d'historiques se tiennent aujourd'hui en Géorgie, République du Caucase. Une sorte de référendum pour ou contre l'Europe. Le pays est divisé entre une opposition pro-européenne et un parti au pouvoir accusé de dérives autoritaires pro-russes. Les bureaux de vote restent ouverts en Géorgie jusqu'à 20h, 16h temps universel, avec dans la foulée les premiers sondages sortis des urnes. 3 morts et près de 20 blessés en Ukraine. De sources ukrainiennes, une attaque de missiles russes a tué hier soir 2 adultes et 1 enfant à Dnipro, ville du centre-est du pays. D'autres frappes nocturnes ont fait 1 mort et 1 blessé dans la région de Kiev, d'après l'administration militaire régionale. En Ukraine, des milliers de familles, de soldats ou de civils vivant en territoire occupé sont parfois sans nouvelles pendant des mois, voire des années. Ces hommes ont-ils survécu? Sinon, qu'a-t-on fait de leur corps? Sont-ils en captivité? La publication d'une nouvelle liste de disparus va permettre d'en savoir plus. Dans le même temps, Kiev souhaite accélérer le processus d'échange de prisonniers avec Moscou. Le point avec sur place à Kiev, Emmanuel Chaz.
Après une visite au Qatar, le commissaire aux droits de l'homme Dmytro Loubinets a annoncé qu'une médiation du pays du Golfe entre Kiev et Moscou lui avait permis de recevoir une liste de noms de prisonniers ukrainiens jusqu'à présent portés disparus. Une avancée alors que des milliers de familles attendent des nouvelles de leurs proches dont elles n'ont parfois pas entendu parler depuis des années. On estime à environ 55 000 le nombre des disparus, civils et militaires, depuis le début de la guerre. Si on ne connaît pas encore le nombre de personnes figurant sur cette liste ni leur état de santé, on apprend également par Dmytro Loubinets qu'il rentre en Ukraine avec des lettres de prisonniers pour leur famille. La situation humanitaire de milliers de soldats ukrainiens aux mains de Moscou est extrêmement précaire. Dans les prisons russes, hommes et femmes sont torturés, affamés, parqués dans des conditions insalubres. C'est également la raison pour laquelle une accélération des échanges de prisonniers a été discutée au Qatar, qui a déjà servi de médiateur, notamment en aidant au retour d'enfants ukrainiens illégalement déportés et détenus en Russie. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Aux États-Unis, plus qu'une huitaine de jours avant la présidentielle du 5 novembre, pas question de relâcher la pression pour les deux prétendants à la Maison-Blanche, au coude à coude dans les sondages. Après le Texas hier, Kamala Harris et Donald Trump ont à nouveau choisi le même État ce samedi, le Michigan, l'un de ces États-clés qui devrait faire la décision le jour du scrutin. Dans l'actualité économique, la France échappe à une dégradation de la note de sa dette souveraine par Moody's. Mais elle est désormais en sursis. L'agence a en effet déploré la situation des comptes publics et prévenu qu'elle envisage une rétrogradation dans les prochains mois. À l'Assemblée nationale, le débat budgétaire se traduit par une série de revers pour le gouvernement Barnier. Son projet de loi de finances est largement alourdi et amputé de pans entiers, parfois à l'initiative de son propre camp. C'est ce samedi soir que doit s'achever théoriquement l'examen en première lecture.
RFI.
Un mort et au moins 75 malades dans une dizaine d'États différents aux États-Unis. C'est le bilan provisoire de la contamination à la bactérie E. coli qui touche des clients de la chaîne McDonald's. Des plaintes ont commencé à être déposées contre McDo, alors que certains de ses concurrents comme KFC et Taco Bell ont retiré les oignons de certains de leurs produits. Justine Fontaine.
Des oignons frais seraient en effet à l'origine de la contamination de dizaines de clients de McDonald's. Avant même d'en avoir la certitude, la chaîne américaine a assuré qu'elle arrêtait jusqu'à nouvel ordre de travailler aux États-Unis avec l'entreprise qui lui en fournissait. McDo a aussi décidé de retirer les oignons du hamburger que les clients malades déclarent pour la plupart avoir consommé. Pour tenter de rassurer leur clientèle, d'autres grandes chaînes de restauration rapide ont aussi enlevé les oignons frais dans certains de leurs restaurants aux États-Unis ou certains de leurs produits. C'est le cas de KFC, Taco Bell, Burger King ou encore Pizza Hut qui ne veulent pas être assimilés au cas de contamination. Au moins 2 plaintes contre McDonald's ont été déposées au nom de clients malades. Ils demandent une indemnisation de plus de 50 000 dollars. L'action du leader des chaînes de fast-food aux États-Unis et dans le monde a chuté de près de 7% à la bourse de New York depuis l'annonce des premiers cas en début de semaine.
Justine Fontaine du service économique. Le Commonwealth reconnaît que le moment est venu de parler de l'héritage de l'esclavage. Ses 56 membres, principalement le Royaume-Uni et ses anciennes colonies, viennent de se réunir au Samoa pour le le Commonwealth. La voie est ouverte à des réparations. Enfin, un mot de tennis. Deux Français en demi-finale du tournoi de Bâle en Suisse. Aujourd'hui, Arthur Fils, 20e mondial, et Giovanni Pecci-Péricard, classé numéro 50. Le premier est opposé cet après-midi à l'Américain Ben Shelton et le second danois à Holger Rune. C'est la fin du journal, pratiquement 13h10, ici à Paris.